Radio Okapi. Okapi. Okapi Service, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa, avec Marcel Ngombo Mbala. Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver dans ce nouveau numéro de votre magazine de la vie au quotidien Okapi Service. Au menu de ce numéro, quels sont les préalables à réunir pour relancer la production de l'Amiba? Nous en parlons avec Monsieur Paulin Loukoussa, qui est directeur général de la minière de Bakwanga. Nous aurons également Sébatar Toumba, président de la délégation syndicale de l'Amiba. Dans la deuxième partie de l'émission, candidat finaliste et comment bien passer la dissertation, Abbé Marcus Bidungwa, enseignant à l'Université Pédagogique Nationale, sera notre invité. Voilà le menu pour le magazine Okapi Service de ce jour. William Lungamba est à la technique et Tatima Poko réalise et coordonne ce magazine présenté par Marcel Ngombombala sous la supervision de Jean-Marc Mataki. À toutes et à tous, excellentes conditions d'écoute.
Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, heure de Kinshasa.
Voilà, pour en parler, nous avons plutôt notre invité en ligne, Claude Mianduila Dissimba, j'espère que j'ai bien prononcé son nom. Il est classificateur et évaluateur des diamants. Monsieur Claude Mianduila, bonjour.
Bonjour.
Voilà, merci d'avoir répondu à notre invitation pour aborder ces sujets sur les préalables à réunir pour relancer la production de la MIBA. Autrefois, fleuron de l'économie de la RDC, la minière de Bakwanga, MIBA en sigle, a fait faillite depuis les années 1990 ou si vous voulez 1990 pour permettre à cette société congolaise de rejouer son rôle d'antan. Un investissement de près de 150 millions de dollars américains nécessaires selon les comités de pilotage et réforme des entreprises publiques copyright en cible. Et en dehors de cette somme qu'il faudra mobiliser, il est aussi impérieux de prévenir la spoliation dite des concessions de la MIBA par de particuliers ainsi que l'incursion des créseurs artisanaux dans les concessions de la MIBA. Alors avec notre premier invité, on va essayer de voir quels sont les préalables à réunir pour relancer la production de la MIBA. Je rappelle le numéro des contacts si vous êtes intéressé. Vous pouvez composer les 081 890 63 94 ou encore les 099 706 63 94. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse service@radiokapi.net. Voilà le numéro, les adresses auxquelles vous pouvez bien intervenir pour réagir au cours de cette émission. Alors, dites-nous, monsieur Claude Mianduila Dissimba, vous êtes classificateur et évaluateur de diamants. Dites-nous d'abord, c'est quoi ce métier, être classificateur et évaluateur de diamants?
Je pourrais dire que c'est assez simple. Mon travail consiste à classifier des diamants, donc parce que vous avez tout d'abord, pour commencer, vous avez des diamants de qualité industrielle,
oui.
Et de l'autre côté, vous avez des diamants de qualité de joaillerie. Industrielle, qui part bien sûr dans l'industrie, par exemple, juste un petit exemple en passant, lorsque vous avez par exemple du matériel de forage, les têtes de forage, vous pouvez arriver à un certain endroit où c'est vraiment extrêmement dur. Vous arrivez à avoir une roche et ça demande, vu que le diamant est pratiquement le matériau naturel que nous donne la nature le plus dur, on enduit par exemple ces têtes de forage de diamant afin que cela, même si ça arrivait à une roche, que cela puisse continuer à forer et aller de l'avant. Ça, c'est juste un exemple de manière pédagogique. Et maintenant, vous avez aussi des diamants de qualité joaillerie. On fait des bijoux avec et consorts. Donc, c'est là. Ça demande que l'on puisse maintenant classer tout cela. Il y a des sous-groupes aussi, donc tant du côté joaillerie que du côté industriel. Et ensuite, là, donc, c'est mon travail côté classificateur. Et ensuite, vient la partie maintenant d'évaluer, donc de mettre un prix sur les 10 diamants. Donc là, classificateur d'un côté et évaluateur de diamants bruts de l'autre, donc. Voilà. Quel est mon travail.
Voilà, merci pour toutes ces précisions, parce que c'est pas tous les jours qu'on a un classificateur évaluateur de diamants pour parler justement de ce minerai. Alors, on va parler des préalables, comme je l'ai dit, à réunir pour relancer la production de l'amibe. Mais avant de revenir à Monsieur Claude Mianzula, je salue le deuxième invité, Sébastien Toumba, qui vient de nous rejoindre. Il est déjà en ligne. Il est président de la délégation syndicale de l'amibe. Monsieur Sébastien Toumba, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
Voilà, merci de nous avoir rejoints. Alors, cette première question, Claude Mianzula d'Isimba, vous savez, en tout cas, c'est connu de tout le monde. Autrefois, l'amibe, c'était vraiment le fleuron de l'économie de la RDC, mais depuis des années 90, cette entreprise a fait faillite. Alors, pour permettre à cette société congolaise de rejouer son rôle d'antan, un investissement de près de 150 millions de dollars américains nécessaire sur les comités de pilotage et réforme des entreprises publiques. Mais il y a aussi un autre problème. En dehors de cette somme, il faudra mobiliser. Et il est aussi impérieux de prévenir la spoliation des concessions de la MIBA par des particuliers, ainsi que l'incursion des créseurs artisanaux dans les concessions de la MIBA. Alors, que pensez-vous, vous qui êtes évaluateur et classificateur de diamants, parce que si la MIBA arrive à rejouer son rôle d'antan, j'espère que c'est aussi une bonne chose pour vous. Alors, quels sont les préalables à réunir pour permettre la relance de la MIBA?
Tout d'abord, je tiens à saluer monsieur le président de la délégation syndicale de la MIBA, Serbatar Ntumba, avec qui j'ai eu à travailler d'ailleurs, puisque j'étais à la MIBA en tant que consultant durant 18 mois. Monsieur Ferbatar Ntumba, donc, disais-je, bonjour. Bon, pour revenir maintenant à ce qui concerne les préalables, afin que la MIBA puisse se relever, dans un premier temps, dans l'immédiat, il serait vivement souhaitable d'arrêter cette descente aux enfers telle qu'elle est pour le moment, vu qu'il y a une mauvaise gouvernance qui a eu à élire domicile depuis des années, les années antérieures. Et ce que nous vivons maintenant, c'est juste un aboutissement de toute cette gouvernance que je qualifie de mafieuse. Je le dis tout à fait de manière citoyenne. Ça, c'est une parenthèse que j'ouvre rapidement, afin que ces débats puissent être élevés. Et non pas simplement au ras des pâquerettes, façon de parler, et ne rien apporter de bon, ou ce sont des invectives ou autre chose. Non, loin de là. Vraiment un débat que je tiens à avoir de manière citoyenne, tel que d'ailleurs Radio Capi nous le prône à chaque instant. Donc pour revenir à ce que je disais, mettre fin tout d'abord à cette gouvernance mafieuse. De quelle manière ? Il est vivement souhaitable, je le dis encore de manière citoyenne, de mettre de côté le comité de gestion intérimaire actuel et que le gouvernement de la République puisse vivement s'impliquer afin de pouvoir trouver des animateurs empreints d'un réel patriotisme d'une part, mais aussi d'un professionnalisme avéré. Et avant même d'en arriver là-bas, il est vivement souhaitable que le gouvernement de la République puisse vraiment s'imprégner de la situation et pouvoir prendre un cabinet d'audit de carrure internationale afin de pouvoir auditer les ressources tant administratives, techniques, financières, juridiques et sécuritaires de la MIBA. Et c'est à ce moment-là que l'on aura une vue d'ensemble de ce tableau qui est extrêmement sombre, je le dis vraiment sans embâche, afin que nous puissions relancer la MIBA de manière pérenne.
Voilà, ça c'est, je veux reposer la même question à Monsieur Sébatar Antumba, qui est président de la délégation syndicat de la MIBA. Ce qui est vraiment intéressant, la bonne nouvelle, c'est celle de savoir que on a déjà une idée, hein, selon les comités des pilotages de pilotage et réforme des entreprises publiques, il faut 150 millions de dollars américains. En tout cas, c'est le montant qu'il faut pour arriver à relancer cette entreprise. Vous êtes président de la délégation syndicale de la MIBA. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci beaucoup, monsieur Claude Nianzoul, que j'ai salué aussi en passant. Je vous remercie d'abord pour cette opportunité que vous nous offrez, juste pour s'exprimer, donner notre point de vue sur ce qui est de la relance de cette entreprise qui est au niveau qu'elle se trie et qui est au niveau qu'elle se trouve aujourd'hui à cause de plusieurs aléas. Mais sinon, en ce qui concerne sa relance actuellement, moi, je ne vois pas pourquoi nous pouvons toucher par-ci, toucher par-là. Non, le problème est clair. La MIBA a été ramenée aux enfers par des gouvernements, c'est-à-dire des gouvernements passés. La gestion, la volonté politique n'allait pas dans le sens de garder ou de maintenir les cadres de cette entreprise. Les problèmes si on peut parler des problèmes qui ont amené d'abord l'entreprise là où elle est, si on détecte ces problèmes-là, c'est là qu'on peut voir maintenant ce qu'on peut faire. Mais dire seulement que tel, non, nous attaquons pas aux gens. Mais nous voyons, nous devons être objectifs. Je crois, dans le sens des changements de comité et consorts, la gouvernance a été mauvaise, c'est ce qui a poussé les chefs de l'État aujourd'hui à mettre un comité intérimaire qui est en train de travailler. Vous avez évoqué des problèmes du comité de pilotage des entreprises du portefeuille. Voilà. Ce comité-là, mais n'a pas travaillé seul, a travaillé avec les comités intérimaires de la MIBA. C'est-à-dire les données qu'elles ont, ce sont les données qui sont sorties de la MIBA. C'est-à-dire, là, c'est pour dire que la MIBA n'est pas la moindre dans ce qui est proposé aujourd'hui par Copirep comme une voie de sortie pour cette entreprise. Nous savons très bien que ça fait un temps depuis que le chef de l'État actuel est là. Il a déjà manifesté sa volonté puisqu'il nous a reçu même nous les syndicats. Nous avons échangé avec lui, il a pris nos desiderata et nous savons qu'il est en train de résoudre les problèmes. Le problème à la MIBA actuellement, c'est le financement. Les problèmes aujourd'hui, il faut les capitaux frais. Nous ne savons pas qu'aujourd'hui on va chercher un ange au ciel. Oui. Le chef de l'État n'ira pas recruter un ange qui la ramènera pour dire que c'est celui-ci qui a les mains tout à fait blanches qui va gérer la MIBA. Nous ne sommes pas dans ça. Et nous savons qu'on a une organisation aujourd'hui. L'État congolais actuel est en train de travailler, est en train de traquer des mafias d'une autre manière. Ce n'est pas la chasse aux sorciers. C'est ça le terme qu'avait utilisé le chef de l'État. Si par des services attitrés, on décèle les maouis là, on décèle ceci, cela, mais ça ne relève que des autorités ou de la hiérarchie de la MIBA. C'est-à-dire la hiérarchie de la MIBA, il y a des ministères qui gèrent ça. Et ce n'est pas quelqu'un qui n'est ni à la MIBA, ni dans les institutions qui gèrent la MIBA comme les gouvernements, qui sait dire que non, là, il y a ceci, cela. Moi, j'ai toujours dit, nul ne parlera mieux de moi que moi-même. C'est-à-dire, même le plan qui est donné aujourd'hui, oui, par Copiret, c'est un plan qui est travaillé avec la MIBA. C'est-à-dire, la MIBA a parlé elle-même avec Copiret. C'est ce qui a fait à ce que Copiret sorte un plan de sauvetage.
Alors, monsieur Sébatar, si je comprends bien, donc pour vous, Le problème, c'est d'abord de l'argent, les financements, et ensuite, lorsqu'il y aura ce financement, quels que soient les comités de gestion, le grand problème, c'est la bonne gouvernance. C'est un comité qui va en tout cas bien gérer l'argent qui va être en tout cas décaissé ou bien qui va être destiné à relancer la MIBA. Donc c'est d'abord ça le plus important.
Oui, vraiment, vous êtes sur les lignes, mais sinon je parle tout en contrôlant ma langue.
Oui.
Je dis ceci. Moi, je suis un syndicaliste. Il y a ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse en premier lieu, c'est le bien-être social du personnel. Mais on est en train de nous amener dans des distractions. Ce comité a déjà fait son plan de relance.
Oui.
Qui a été examiné à plusieurs instances. Aujourd'hui, si on dit seulement aujourd'hui, on arrête, on ramène un autre comité. Nous avons vécu longtemps à la MIBA. Je crois mon frère Nyanzoula a fait 18 mois. Mais moi, j'ai pris de 20 ans. Nous savons, nous connaissons bien les conséquences. Quand on enlève un comité pour mettre un autre. C'est-à-dire un autre comité là, il reviendra et recommencera les tours à zéro. Et entre-temps, c'est l'entreprise qui est en train de s'effacer. S'effacer, c'est-à-dire, c'est clouer son personnel dans la misère. Là, on ne comprend pas. On joue à quel jeu? C'est pour ça que je reviens. Pour dire, tout ce qu'il y a comme préalable pour relancer cette entreprise, ont été déjà remis à qui des droits. Le chef de l'État gère à la loupe et à la minute la situation de la MIBA. Et j'en suis sûr.
Alors,
ministre,
oui.
Madame la ministre du portefeuille, suit ça. Il y a le Haut Conseil du portefeuille qui suit la situation de la MIBA. Mais ce n'est pas un tiers qui peut se lever d'un bon matin, prendre une décision, instruire le chef de l'État, instruire le gouvernement, non. C'est ainsi que je reviens pour dire, après avoir déposé tout ce qu'il y a, puisque là, le grand problème, c'est le financement. Dans tout ça, on a fait le plan. Ça, c'est un plan à long terme. Il y a le plan de relance à moyen terme et à court terme. Je sais que le chef de l'État en a. Et aujourd'hui, la mission même qu'a fait Copyright, c'est le chef de l'État qui a instruit. Et ce comité de pilotage a travaillé, a récolté lui-même les données. Et sur base de ces données, a fait aussi son plan de relance. C'est à l'issue de ce plan de relance que l'État doit maintenant à la MIBA les moyens. Mais ici, nous avons deux cas. L'État en soi a une créance envers la MIBA. Cette créance n'est pas la moindre. Nous avons, avec ce comité, eu 5 millions de dollars dans cette créance-là. Mais il n'y avait plus, je crois, à l'époque que mon frère Nyanzoula était à la gestion. Moi, je dis qu'il était à la gestion, puisqu'il était le conseiller rapproché de l'ancien DG de la MIBA. Ils avaient géré 5 millions de dollars, mais...
Alors, Monsieur Sebattard, l'intérêt de cette émission, c'est-à-dire, on va pas vraiment entrer dans le débat par rapport aux gestions, comment dire, qui ont précédé. Le plus important pour nous, c'est de parler de la relance de ce fléau, en tout cas, de l'économie congolaise qui est la MIBA. On a parlé du 150 millions. Vous avez parlé des financements, c'est bon. Et pour ce qui est du comité, hein, c'est ce qu'on demande au comité, quel que soit lequel, il faut de la bonne gouvernance. Mais il y a aussi cet autre problème, hein, parce avant qu'on passe la parole aux auditeurs qui sont déjà en ligne, le problème de la spoliation, hein, de concessions de la MIBA. Là c'est comment les choses évoluent de ce côté-là.
Bon, merci beaucoup, monsieur le journaliste, mais je voulais, avant d'entrer là-bas, puisque si je ne termine pas...
Alors, rapidement.
Merci pour cet accord. Je disais que actuellement, évaluant la gestion des 5 millions actuels, avec il y a eu le comité qui a eu 10 millions, qui a eu 11 millions, qui a eu 5 millions, Mais aujourd'hui, nous avons trouvé qu'avec 5 millions, aujourd'hui, on produit, même si la production n'est pas à la hauteur de prendre en charge les besoins généraux, les besoins de la MIBA en entièreté. Mais ça manifestait encore la bonne volonté et c'est là que nous nous disons, comme syndicat, nous ne pouvons pas nous imiter dans la gestion. Si le chef de l'État lui-même qui a désigné ce comité trouve après son évaluation à lui-même, sans être influencé par des forces extérieures, là, c'est autre chose.
Mais monsieur Sibata, vous l'avez déjà dit, on ne va pas progresser comme ça, vous l'avez déjà dit, il ne faut pas que le chef de l'État se laisse influencer par des milieux extérieurs ou bien par d'autres personnes alors qu'il y a déjà un plan de relance de la MIBA qui est déjà bien en place. Alors, si on veut parler de rapidement, avant de donner la parole aux auditeurs, de la spoliation des concessions de la MIBA.
Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste, de ce qui est des spoliations des concessions de la MIBA.
Oui.
Mais ça, je vous dirai tout simplement que ce qui est parce que ce sont des problèmes politiques. Hein. Ce sont des problèmes politiques. Les amis qui sont sur terrain, dans les personnels que nous gérons aujourd'hui, le frère là sont représentés à plus ou moins 30% à la MIBA. Sont représentés à 30% dans les personnels MIBA. Et de tous ces temps, ils ont toujours vécu ensemble avec la MIBA. C'est ce que j'ai toujours ma lecture à part. Ma lecture est telle que, et là qui se parlent et qui savent comment se parler, parmi eux, il y a les gens intelligents. À la MIBA, il y a les gens intelligents ou sages. Ils savent toujours aboutir à des conclusions et à des compromis. Mais comme il y a une mixation, peut-être des forces extérieures, des gens qui veulent manger mais derrière les autres, ils veulent que ces deux équipes soient en conflit. Mais nous, le personnel, je viens de vous dire, moi, comme représentant du personnel, que nous gérons les personnels et nous luttons pour qu'il n'y ait pas des affrontements. Nous luttons pour qu'il y ait.
Voilà, vous essayez de faire votre travail comme vous le pouvez. Alors, on revient à vous, le temps pour nous de nous tourner vers le standard parce qu'il y a déjà un auditeur hors scène qui nous appelle de Lubumbashi. Si vous venez de vous joindre à nous sur la fréquence de la paix, c'est votre magazine de la vie au quotidien au Capi Service. Nous parlons des préalables à réunir pour relancer la production de la MIBA. Si vous êtes intéressé, vous voulez intervenir, le numéro d'appel, c'est les 081-890-6394 ou encore les 099-716-6394.
L'actualité en profondeur sur Radio Capi, c'est dans Grande Interview. Des questions politiques, économiques, sécuritaires et tout ce qui touche au vécu des Congolais sont abordées avec les acteurs qui font l'actualité et les spécialistes. L'actualité évolue et nous aussi. Toute l'équipe vous donne rendez-vous tous les samedis à 10h05, dimanche à 11h05 et mardi 14h15.
Voilà, on va accorder la parole à cet auditeur qui nous appelle depuis Lubumbashi. Il s'agit de Orsen. Orsen, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour Marcel et bonjour à nos deux invités.
On vous écoute Orsen.
Ah oui, merci beaucoup pour la parole. Et trois questions que j'ai posées à nos deux invités. La première question était celle de savoir qu'est-ce qui a été franchir de cette grande société qui est la MIBA des années 90 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et la deuxième question est celle de savoir que réellement le Congolais manque une somme de 150 000 dollars pour relever la MIBA ou bien il n'y a pas la volonté.
150 millions.
Oui, ça, oui, même si c'est 150 millions, le gouvernement congolais manque cette somme d'argent pour relever la sa volonté. Et la troisième question pour citer, si le gouvernement n'est pas en mesure d'investir la société MIBA, il n'y a pas moyen de chercher les partenaires comme ça qu'il soit en partenariat, parce qu'il y a des partenaires, il faut chercher des partenaires comme ça. On investit ensemble, s'il y a possibilité, on peut commencer à se partager des pourcentages. Parce que je le vois ici, à Lubumbashi, la Gécamine a des partenaires du côté Likasi, Kamove et Kamfunda. Ils travaillent en partenariat avec d'autres sociétés, par exemple Rulco, il y a des Libanais là du côté des Sissignés de Kamatanda. Ils travaillent avec les partenaires, les gens là amènent les engins, on travaille en collaboration, en coopération comme ça. S'il s'agit de se partager les pourcentages, on le fait. Mais si le gouvernement n'est pas en mesure de les faire seul, il ne peut pas aussi chercher des partenaires pour commencer à se partager des pourcentages. Merci.
Merci Orsène d'avoir appelé de Lubumbashi. Alors, vous avez suivi Orsène, Monsieur Claude Mianzula. Comment réagissez-vous? Il a cherché à savoir qui était à la base, en tout cas, de cette... de ce qui a fait que cette entreprise de la MIBA tombe en faillite. Vous avez évoqué, hein, c'était plus un problème de gestion, comme d'ailleurs c'est le cas dans beaucoup d'entreprises en RDC. Donc, il faut vraiment absolument qu'il y ait une bonne gouvernance pour que la relance se passe dans de très bonnes conditions. Mais il a également posé la question de savoir est-ce que 150 millions de dollars, c'est pas un montant extraordinaire pour le gouvernement congolais. Et ensuite, il a évoqué le problème des partenaires. Qu'est-ce que vous en dites, Monsieur Claude Mianzula?
Concernant les 150 millions de dollars, si nous revenons légèrement en arrière,
oui.
Au niveau de la commission, au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau de la commission socio-économique, si je ne m'abuse, Madame la ministre du portefeuille, vers la fin de l'année écoulée, s'y était présentée afin de préciser que le gouvernement de la République se doit de disponibiliser 150 millions de dollars au sein du budget national qui a été mis en exergue donc pour 2022. Donc les 150 millions de dollars sont bel et bien là. Cependant, je reviens encore sur cet aspect primordial sur lequel nous devons tout d'abord focaliser de manière patriotique nos vues, parce que nous avons bien vu que dans les années antérieures ou même dans les décennies passées, ce qui a mis la société à genoux, la minière de Bakwanga, MIBA en sigle, c'est une hyper mauvaise gouvernance qui continue jusqu'à ce jour avec le comité actuel. Donc, je présume que le gouvernement de la République est en train de voir la manière la plus pérenne de pouvoir relancer la société minière de Bakwanga. Dernièrement, il y avait eu un accord, un agreement qui avait été signé, une entente, voilà en français, une entente qui avait été signée entre Alrosa, qui est le numéro un mondial dans le diamant brut, ainsi que la minière de Bakwanga. Cependant, nous voyons ce qui se passe maintenant avec la guerre de l'Ukraine, donc ça devient de plus en plus hypothétique. C'est de manière subjective que je parle, tel est mon raisonnement en ce moment. Donc je vois mal comment est-ce que Alrosa, qui travaille aussi par exemple en Angola, pourrait maintenant venir ici en République démocratique du Congo afin de pouvoir accompagner la MIBA dans sa relance. J'estime, j'ose croire que si aussi il y a un flottement en ce moment, c'est que le gouvernement de la République est en train d'étudier les pistes les meilleures afin de pouvoir relancer de manière, je le répète encore, pérenne, oui, la société minière de Bakwanga.
Voilà. Alors, M. Sébatar Toumba, vous avez suivi également Orsène qui a appelé de Lubumbashi. Comment vous, qu'est-ce que vous en dites? Il a proposé si la MIBA peut trouver également de partenaires extérieurs à l'exemple de la Gécamine.
Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Ce que moi, je peux mettre comme avis là, c'est que la société minière de Bakwanga, c'est une société de l'État. J'ai dit de l'État pourquoi? Parce que l'État congolais est actionnaire majoritaire d'environ 80% d'action à la MIBA.
Oui.
Une décision pareille ne peut être prise que par les gouvernements. Ce n'est ni aux dirigeants de la MIBA, ni à nous, les syndicats, de dire qu'aujourd'hui, il faut avoir tel ou tel autre partenaire qui peut nous amener. Je sais que les dirigeants, souvent, qu'est-ce qui se passe? S'il y a des partenaires qui sollicitent eux-mêmes, ça, ils doivent passer par l'entreprise, puisque l'entreprise, dans sa gestion, est presque autonome, mais dépend de sa hiérarchie qui est le gouvernement. Alors, ils marquent leur intention. Après l'intention, on examine par le conseil d'administration et après, ils doivent proposer. Le conseil d'administration propose à l'Assemblée générale. L'Assemblée générale, c'est dirigée par le gouvernement qui représente le président de la République. Et c'est à ce niveau-là qu'on sait prendre des décisions. Mais ce qui est encore vrai est que cela, ça doit être possible que quand l'État s'évalue, lui-même il trouve qu'il n'est pas en mesure de relancer son entreprise. Comme on a fait les rapports actuellement que vous venez d'évoquer par le comité de pilotage des entreprises du portefeuille. Alors, à partir de ces rapports-là, on a parlé, il y a beaucoup de choses. Nous n'avons parlé que des chiffres. Mais là, je crois, l'État va encore analyser. Si l'État trouve que ces moyens, même plus, puisque ça, c'est juste les moyens qui peuvent aider, mais ça demande presque plus. Mais si l'État trouve que pour y arriver, il me faut ouvrir les capitaux, ça ne dit pas que de l'État congolais. Je crois les experts de COPIREP là ont fait un travail complet. Et ils ont même fait la restitution de ce travail-là. Tout le monde a entendu et a compris que c'est un travail de qualité pour lequel je les remercie et je les félicite encore en passant s'ils nous suivent à ce moment. Alors, dire quelque chose sur l'ouverture des capitaux et consorts, non, ça, nous sommes en train de nous distraire. Pour rien, laissons l'État congolais, qui est actionnaire de l'AMIBA, l'actionnaire majoritaire, à prendre la décision pour le destin de cette entreprise. Ce que nous savons encore mieux, c'est que, jusqu'alors, cette entreprise est en attente des réalisations. Et nous restons confiants aux promesses du chef de l'État.
Mais il faudra que ces promesses-là puissent être tenues. Donc c'est ça, j'imagine déjà, si vous voulez, de vous inviter le gouvernement à tenir leurs promesses. Permettez-nous d'avancer parce que là, notre auditeur en ligne, c'est Maître Yves qui nous appelle depuis Kinshasa. Maître Yves, vous êtes en ligne. Bonjour.
Bonjour la Radio Capitale. Bonjour les invités. Bonjour tous les auditeurs. Vraiment, moi je pense que le même cause produit les mêmes effets. Je suis d'accord avec l'invité qui estime qu'il faut absolument que on ait d'abord un audit, qu'on puisse auditer d'abord la gestion de cette entreprise pour savoir dégager les responsabilités. Parce que les sables, selon ce qu'ils disent, que si la MIBA est à genoux aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une mauvaise gestion. On doit savoir qui sont les responsables de la gestion. Et s'il y a eu des faits de détournement de données publiques, etc., on doit savoir comment engager des procédures pour que ces gens soient appréhendés et que l'argent qu'ils ont détourné puisse être restitué pour le compte de l'État. Si on doit aller tout comme ça, moi je pense qu'on ne sera pas avancé. Donc je pense qu'il faut auditer, non seulement il faut financer, bien sûr, le financement peut venir, mais si on n'a pas audité, si on n'a pas dégagé les responsabilités, ils sont là maintenant là. Nous ne sommes même pas sûrs qu'en tout cas, ils ont encore abandonné la culture de cette mauvaise gestion qui a pris racine dans notre pays, dans presque toutes les entreprises. Je crois qu'il faut d'abord auditer. Et bon, les gars, c'est de poursuivre ceux qui ont détourné les biens de l'entreprise. L'entreprise avait investi quand même. C'est depuis longtemps que la MIBA a travaillé et a produit. Si on n'a pas investi en termes de capitaux, on doit avoir investi en termes d'immeubles, etc. On en parle. Ici, il y a des gens qui ont spolié les immeubles de l'État. Pourquoi jusqu'à ce jour, on n'a pas engagé des petits pour que ces gens-là soient appréhendés, que les biens de l'État soient quand même restitués? On ne peut pas continuer avec l'impunité vraiment continuant. Je pense donc que, pour ne pas abuser de votre temps, qu'on puisse d'abord auditer pour savoir comment toute la gestion a été effectuée par ceux qui ont précédé et qui sont les responsables de cette mauvaise gestion qui ont fait tomber l'entreprise dans un carreau total. Aujourd'hui, vous voyez, les populations sont en train de souffrir, les autres au Katanga, partout, tout ça, parce que la Gécamine était pratiquement les poumons de la République. À un certain moment, il semble d'ailleurs que même les guerres des liens ont été financées par la MIBA. Donc, moi, je pense qu'il faut absolument auditer, qu'on sache dégager les responsabilités, et s'il y a eu des biens de l'État qui ont été détournés, puisqu'on puisse appréhender ceux qui ont commis ce genre de comportement, et qu'on les arrête, et que le bien puisse être restitué. C'est ainsi qu'on peut financer maintenant, avec un nouveau... Parce que nous devons surviter la République des intérimaires, les gens qui sont là. Un intérimaire n'est pas tellement motivé pour engager des actions tendant à développer une entreprise. Moi, je crois qu'il faut un comité définitif qui puisse débarrer l'entreprise, espérant que cette fois-ci, ça sera bon, bien entendu, avec l'aide du chef de l'État pour que nous puissions espérer cette fois-ci une bonne gestion. Voilà ce que je voulais dire, monsieur.
Voilà, merci, maître Yves, d'avoir appelé les Kinshasa. Monsieur Sibata Rantumba, votre réaction.
Oui, merci beaucoup. Je crois que l'ami, vraiment, il a très bien dit. Il a très bien dit. Mais sinon, il y a quelque part que peut-être comme il vit en dehors de la province minière même, c'est là qu'il n'a pas compris de quelle spoliation on parle. Il n'y a personne qui a détruit les bâtiments ou les infrastructures ou qui en a utilisé pour ses fins propres. Mais c'est un problème tout à fait autre. C'est ainsi que là, nous avons dit que c'est le problème de l'État qui s'est s'engager et qui s'est donné des solutions. Et quand nous revenons sur les problèmes de gestion et quoi du comité qui doit gérer l'audit et consorts, qu'est-ce que moi je peux dire? Je dis seulement que dans toute bonne gestion, l'audit n'est pas à exclure. Dire qu'il n'y a pas d'audit, là, c'est dire qu'encourager est mal. Mais ce qu'il y a à savoir, tel que j'avais dit, ce n'est pas par influence de quelqu'un qui... Non. L'audit, là, même à la MIBA, il y a l'audit. Il y a l'audit. L'État a des institutions, c'est là que j'ai dit, qui sait contrôler et suivre. C'est nous qui sommes à la MIBA, qui connaissons, qui a les audits, là, qui décident. Hein? Mais les gens veulent. Si quelqu'un veut ce qu'il veut, il aime qu'il voie ce qu'il veut. C'est ça le problème. Mais sinon, ici, nous qui sommes dans l'entreprise, la foi, parce que je crois, moi, personnellement, j'étais sur les médias. Nous avons décrié ce qui était décriable. Et quand on a vérifié, on a trouvé que c'était sûr, l'État a tiré des conséquences. Les conséquences, nous en avons tiré. Et aujourd'hui, jusque-là, même dans d'autres instances, j'ai toujours dit que accorder les moyens, tout ce que nous faisons, c'est juste des distractions. Que l'État donne les moyens, que le gouvernement s'engage. Donnez à n'importe qui, mais en qui vous avez confiance là, qu'il gère. Quand il détourne, quand il fait quoi que ce soit, mais l'État est là, la justice est là. Qui est contre la justice? Et nous sommes dans l'État des droits. Voilà. C'est tout ce que je peux dire par là. On ne voit pas pourquoi on peut... Non, non. Là, le logis, ok. Mais l'autre problème, nous, à la MIBA, c'est le financement. Qu'est-ce qu'on peut dire? Aujourd'hui, on peut changer les comités. Demain, on change un autre. Mais tant qu'on n'a pas financé, mais ça ne sert à qu'une chanson. Et là, je trouve que tout le monde qui parle de ça est en train de distraire les gens qui souffrent à la MIBA. Est en train de nous distraire seulement. Nous sommes là pour travailler. Nous n'avons pas vu de moyens pour travailler. Nous avons besoin des engins. Que l'État nous donne des moyens pour acheter les engins. Et quand on commencera une production et produire que voilà, ceci, on a détourné, voici des preuves, voici que... Mais parler, oh non, on fait, sans preuve, non, non, ça, nous sommes intellectuels, nous sommes des croyants, nous voulons vraiment parler des choses au clair, des tirer au clair, pas vraiment des choses sentimentales. Vraiment, je suis objectif, monsieur le journaliste, et je crois mon ami qui a posé le problème, je lui ai donné raison, mais j'ai essayé de développer ça selon nous qui sommes à la MIBA et qui vivons nous-mêmes la situation.
Voilà. Là, je reviens à Claude Mianzula. Vous avez évoqué le problème d'audit. Vous avez également parlé de la bonne gouvernance. Mais j'aurais aimé savoir, en dehors de l'audit, de la bonne gouvernance, est-ce que vous pensez qu'il y a aussi d'autres préalables à même, en tout cas, de faire en sorte que cette relance de la MIBA se passe dans des bonnes conditions, comme vous avez dit, qui s'assoit de façon pérenne.
Tel que je le répète encore,
oui.
Nous devons voir tout d'abord en la MIBA une société para-étatique au sein de laquelle le gouvernement de la République détient 80% des actions.
Oui.
Et ces actions sont celles du de la nation congolaise, des filles et des fils de ce pays. Donc, en tant que tel, la société civile et même le citoyen lambda a un droit de regard au sein de ce qui se passe, tant au sein de la MIBA d'une part que dans les autres entreprises du portefeuille de l'État congolais. Bon, ça, c'était juste une parenthèse. Maintenant, pour emmener cela, mener cette relance de manière pérenne, telle que vous venez aussi de le souligner, la MIBA a besoin d'acteurs qui soient empreints d'un réel professionnalisme, des patriotes, des gens qui vont venir non pas pour assouvir leurs intérêts mesquins, personnels, au détriment de la nation congolaise, mais bien pour pouvoir relever cette société et qu'elle puisse de nouveau pouvoir contribuer de manière efficace au budget de l'État congolais. De pouvoir, enfin, une nouvelle fois de plus, pouvoir assurer le bien-être des Congolaises et des Congolais. Parce que Maître Yves, en passant, a eu juste à souligner cela pour dire qu'il y a un exode massif. Mais c'est dû à cela aussi, entre autres, non ? Je parle de manière citoyenne. C'est un débat qui se doit d'être républicain. Il y a un problème. Pourquoi au Kassai oriental? Parce que la MIBA est à genoux. Non pas seulement à genoux, mais elle est exsangue. Elle se trouve au sein d'un gouffre mafieux abyssal. Et c'est cela maintenant, vraiment, voir cela avec des lunettes républicaines, je dis bien républicaines, et non pas en voyant des intérêts mesquins, parce que 150 millions de dollars, c'est une somme énorme. Mais si vous remettez cela entre des mains indélicates, au sein d'une gouvernance qui a eu à faillir, un management qui a démontré ses limites, mais très chers compatriotes, où est-ce que nous allons? C'est la question, c'est ce que nous devons nous poser. Et je prends en considération, il est vrai qu'il y a un grand malheur, une paupérisation extrême du côté des travailleurs de la MIBA. J'en conviens, je suis tout à fait d'accord avec cela. Mais vous n'allez pas remettre cet argent n'importe comment, à n'importe qui, avec tout le respect que je dois à ce comité de gestion intérimaire. Mais je dis qu'il y a un fameux problème qui se doit d'être réglé avant de pouvoir débourser cet argent. Voilà, c'est ce que nous devons comprendre. Des acteurs vraiment empreints d'un réel patriotisme. Parce que pour le moment, ce n'est pas le cas. Ou dans les années antérieures. Puisque nous voyons maintenant, c'est la résultante qui compte maintenant. Vous n'allez pas dire que les acteurs de la société civile sont en train de parler en vain. Ou alors qu'il y a des agendas cachés, ou alors il y a de la jalousie, ou je ne sais trop quoi. Non, évoluons. Portons ce débat de manière républicaine. Je le dis encore, Maître Yves a bien parlé. Il y a des problèmes qui sont là. Il y a un problème d'hommes, des ressources humaines qui manquent pour assurer cette gouvernance de manière efficiente. Tel est le problème. N'allons pas chercher autre chose. Mais si tant ceux qui sont aux affaires en ce moment à la MIBA que ceux qui y sont passés, mais si tout allait bien, mais pourquoi alors critiquer une gestion pareille? Figurez-vous que j'ai été durant 18 mois en tant que consultant là-dedans. Mais est-ce que vous savez que si le comité qui était en place, le comité Albert Moukina Kanda Kanda, a eu à partir, j'étais là en tant que consultant, c'est parce que j'ai commencé à tirer la sonnette d'alarme. Oui, M. Albert Moukina m'avait recruté, mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup de failles. Il y avait une mégestion terrible. Et j'ai commencé à tirer la sonnette d'alarme jusqu'à ce que le chef de l'État fasse venir l'inspection générale des finances. Je me suis juste comporté en patriote. Voilà. Et voilà. Je sais qu'il y en a d'autres. Nous sommes nombreux en cela. Oui, une nouvelle direction générale est impérieuse. Des nouveaux animateurs sont pleinement à prévoir, parce que là, ça ne va pas. Et je le dis encore de manière citoyenne. Afin que la MIBA puisse être relancée de manière pérenne et que le personnel puisse se retrouver. Mais nous parlons de plus de 180 mois d'arriérés salariaux. Est-ce que c'est normal, ça? Nous sommes dans un état de droit, non?
Voilà,
alors
monsieur,
droit de parler, voilà. 180 mois.
Voilà, monsieur Clos, s'il vous plaît. Voilà, on revient à tous les deux pour conclure le temps pour nous d'accorder la parole à Madame Evelyne qui nous appelle de Kananga. Madame Evelyne, vous nous appelez de Kananga. Bonjour, Madame Evelyne.
Bonjour, monsieur Marcel. Bonjour à nos invités et à tous les auditeurs de la Radio Capi.
On vous écoute, madame.
Monsieur Marcel, je suis très ravie du sujet traité aujourd'hui. Moi, ce qui me préoccupe, c'est le désintéressement de l'État congolais au fonctionnement de tout ce que nous avons au pays comme entreprise, comme société. Personnellement, ça dépasse l'entendement de tous les Congolais. Gérer le pays, oui, c'est bien, mais la préoccupation des gestionnaires de notre nation, c'est faire la politique. Politique, toujours pour distraire le peuple congolais. Mais non, je vous entends parler de la relance de la MIBA. C'est quelque chose de très délicat. Néanmoins, pour pérenniser la MIBA, commençons d'abord par installer une école qui est nationale ici pour former les Congolaises et Congolais dans le domaine du diamant. On parle de diamant au Congo, néanmoins nos jeunes ici, même les grandes personnes, si vous prenez ce tir-là dans la main, vous montrez aux dames, aux messieurs, aux jeunes filles et jeunes garçons, vous demandez ça c'est quoi? Personne ne connaît, hein? En dehors de ceux qui sont dans le secteur, les exploitants, tout. Mais le reste de la population ne connaît pas ce que c'est que le diamant. Commençons par là. On forme les jeunes gens dans le secteur. Que l'école soit installée ici, jusqu'à l'université. On installe d'abord l'école. Ça, c'est un. De deux, on doit faire à ce que les Congolais s'approprient de la gestion. De la production. Ça doit d'abord être une affaire des Congolais. D'abord, ça. Ces gens s'approprient de la production du diamant, de la gestion, de l'exploitation, tout. Cette chaîne de valeurs-là, que ça soit une appropriation des Congolais. Trois, qu'elle associe les hommes d'affaires que nous avons au pays. Il y a du fric dans ce pays. Les comptes sont garnis. Les Congolais ont des comptes qui sont garnis, ailleurs et ici au pays. Mais ils font quoi de cet argent-là? Ils investissent pour que les Congolais des générations futures se retrouvent, pour que le Congo soit reconstruit, qu'ils mettent autour d'une même table tous les grands hommes d'affaires que nous avons, que ces gens-là sortent ce qu'ils ont pour réhabiliter la MIBA avant que les multinationales viennent pour dire « Voilà, moi je donne autant, moi je fais ceci, cela. » Non, non.
Merci. Voilà. Merci.
Et autre chose.
Rapidement, madame Evelyne, rapidement, oui.
Spécialiste, monsieur Marcel, s'il vous plaît, qu'on envoie des Congolais en formation pour qu'ils soient des spécialistes dans le domaine, dans tous les secteurs concernant la production, l'exploitation, tout. Qu'on envoie des spécialistes, que nous ayons des spécialistes congolais d'abord. Ayons ça en tête, que l'État congolais puisse capitaliser tout ce qui est dit sur la Radio Capi.
Merci.
Nous avons besoin que les Congolais soient envoyés à l'étranger pour pérenniser, n'est-ce pas, les activités de l'AMIBA ici au pays. Je vous retourne le micro, monsieur Marcel.
Merci, madame Evelyne, et en tout cas, une fois, merci d'avoir appelé du Canada et bonne journée à vous. Voilà, on va conclure avec nos deux invités. Je commence avec Claude Mianzula, qui est classificateur et évaluateur des diamants. Alors ça, c'est tout à fait autre chose. Donc, madame a parlé de la formation d'une école sur les diamants et envoyant également du Congolais à l'étranger pour une formation et puis faire en sorte que les Congolais puissent s'approprier de la production du diamant de l'AMIBA. Rapidement, en une minute, votre réaction et ça sera votre conclusion, monsieur Claude Mianzula.
Envoyer des compatriotes à l'extérieur est une très bonne chose. Cependant, il est impérieux que l'on puisse avoir du patriotisme en nous. Vous pouvez faire toutes les meilleures études du monde, mais nous voyons ce qui se passe souvent ici. Ce sont des élites qui sont en train de mettre le pays à genoux. Exemple, ce sont souvent les élites. Et cela doit changer, tant pour l'AMIBA que pour les autres sociétés de l'État congolais. C'est un changement de narratif qui doit être mis en place, tel que le dit si bien le ministre de la Communication. Cependant, ça ne doit pas être juste un slogan, tant pour l'AMIBA que pour la nation congolaise dans son ensemble, mais bien qu'il y ait un changement vraiment citoyen, républicain, pour l'avancement de notre nation, de notre maison commune, la République démocratique du Congo.
Voilà.
J'ai dit et je vous remercie.
Merci à Claude Mianzula d'Isimba. Vous êtes classificateur et évaluateur de diamants. Merci d'avoir été de notre et bonne journée à vous.
Merci.
Voilà, on va également conclure avec Sébatar Toumba. Vous avez suivi, j'ai bien dit tout à fait autre chose. Il a parlé d'une école de formation sur place sur les diamants, mais également envoyer des Congolais à aller se former sur les diamants à l'extérieur du pays. Comment réagissez-vous? Et puis, ça sera votre conclusion.
Ok, merci madame, a pleinement raison. La formation doit être continue. Vraiment, c'est trop intellectuel et c'est très sage de sa part. Je la félicite. Sensibiliser notre gouvernement à relever ces entreprises, c'est aussi un grand problème. Et pour ça, je la félicite et je passe par là pour demander à notre gouvernement d'avoir un peu cette volonté-là de le faire dans les temps. La population a tant souffert. Il est temps de relever nos fronts.
Voilà.
Aujourd'hui, je suis en train d'aller même.
Oui, on a placé le temps, allez-y, rapide, on a placé le temps, on a eu le temps, oui, allez-y, oui. Le temps est parti et okay. Bientôt à la fin, oui.
Ah, et aussi, je demande à tout le monde qui a travaillé avant ou actuellement à l'AMIBA d'éviter la haine et l'acharnement. Pourquoi? Puisqu'on ne peut pas construire dans cet esprit-là, puisque je ne veux pas de tel ou tel. Et je peux dire et du mensonge et consort. Mais sinon, nous invitons les gouvernements à s'impliquer puisque ça, c'est son affaire. Le problème de l'AMIBA, c'est l'affaire de l'État congolais.
Voilà, on va s'arrêter. On va
à débourser des montants et les moyens conséquents pour que cette société soit relancée puisque ça va du mieux de notre pays en général et de cette province en particulier.
Merci beaucoup, monsieur Sébatar. En tout cas, on va s'arrêter par là. En tout cas, désolé. Je rappelle que vous êtes président de la délégation syndicale de l'AMIBA. Merci d'avoir été de notre. De toute façon, on pourra vous retrouver prochainement pour ce même sujet. On vous souhaite une bonne journée.
Merci beaucoup. Merci. C'est moi qui vous remercie.
Voilà. Après le flash d'infos de 11h heure de Kinshasa, nous aurons abordé un autre sujet qui certainement va intéresser surtout les candidats finalistes. On va parler de comment bien passer la dissertation. Abbé Marcus Bidungwa, enseignant à l'Université Pédagogique Nationale, sera bel et bien notre invité.
I'm sorry, I don't know. Si je m'arrache, pardonnez-moi.
11h à Kinshasa.